Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast du blog progresserenorthographe.com. Dans cette série de podcasts, je vous présente des œuvres incontournables de la littérature qui vous serviront d'exemple pour la troisième partie de l'épreuve écrite de français au CRPE. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une œuvre de Jean Giono, L'homme qui plantait des arbres. C'est une œuvre qui a été publiée en 1953. J'ai choisi cette œuvre pour deux raisons. Tout d'abord, il s'agit d'un livre court et je vous encourage vivement à ne pas vous contenter de ces podcasts, mais à lire les œuvres par vous-même. Et justement, L'homme qui plantait des arbres est un texte très très court. Il vous faudra à peine une toute petite soirée pour le lire en entier. Donc je vous encourage vraiment à la suite de ce podcast à le lire. Et la deuxième raison, c'est que c'est une œuvre qui est très riche. Vous allez pouvoir l'utiliser dans de très nombreux sujets. Voilà, c'est parti pour L'homme qui plantait des arbres. L'homme qui plantait des arbres commence alors que le narrateur, un randonneur, se perd dans les Alpes du côté de la Provence. Il passe par un village abandonné. Dans ce village, toute vie a disparu. Il parle d'un squelette de village. Et puis, en continuant sa route, à 5 heures de marche de là, il tombe, par hasard, sur une forêt qui l'émerveille. Et c'est alors qu'il rencontre un vieil homme avec qui il fait connaissance. Cet homme s'appelle Elzéar Bouffier. Et en marchant avec lui, le narrateur comprend que c'est Elzéar Bouffier qui a planté tous ces arbres, un par un, au fil des années. Les deux hommes se quittent, le narrateur est mobilisé pour la Première Guerre mondiale. Après la Première Guerre mondiale, le narrateur décide de retourner voir Elzéar Bouffier et sa forêt. Et le vieil homme, lui, ne s'est pas du tout soucié de la guerre. Il a continué à planter et sa forêt s'est agrandie. Un peu plus tard, on est en 1935, une délégation administrative vient observer cette forêt. Il y a un député avec tout son cortège. Le député fait un grand discours sur cette forêt qui, selon lui, aurait poussé toute seule. On interdit même à Elzéar Bouffier de charbonner en lui expliquant, en lui faisant la morale, en lui expliquant qu'il risquerait de mettre le feu à cette forêt. Voilà, cette forêt qui, soi-disant, aurait poussé toute seule. Et bon, le temps passe, et Elzéar Bouffier, lui, ne se soucie de rien, et il continue son œuvre. Petit à petit, la région se couvre de verdure, et avec la forêt qui s'est agrandie, eh bien, des ruisseaux apparaissent, ainsi que de nouvelles espèces animales et végétales. Le paysage est complètement transformé. Et, rappelez-vous, il y avait un village abandonné. Eh bien, des familles viennent s'installer dans ce village abandonné. Ce village, donc, reprend vie. On y voit une fontaine, des enfants qui courent. Voilà. Toute la région a repris vie. Elzéar Bouffier, lui, eh bien, il meurt paisiblement en 1947. Voilà pour le résumé de l'œuvre L'homme qui plantait des arbres. Pour poursuivre la découverte de cette œuvre, je vous propose de vous lire le début, les toutes premières pages de L'homme qui plantait des arbres. Pour que le caractère d'un être humain dévoile des qualités vraiment exceptionnelles, il faut avoir la bonne fortune de pouvoir observer son action pendant de longues années. Si cette action est dépouillée de tout égoïsme, si l'idée qui la dirige est d'une générosité sans exemple, s'il est absolument certain qu'elle n'a cherché de récompense nulle part et qu'au surplus elle ait laissé sur le monde des marques visibles, on est alors, sans risque d'erreur, devant un caractère inoubliable. Il y a environ une quarantaine d'années, je faisais une longue course à pied sur les hauteurs absolument inconnues des touristes, dans cette vieille région des Alpes qui pénètre en Provence. Cette région est délimitée au sud-est et au sud par le cours moyen de la Durance, entre Sisteron et Mirabeau, au nord par le cours supérieur de la Drôme, depuis sa source jusqu'à Die, à l'ouest par les plaines du comtat venaissin et les contreforts du Mont Ventoux. Elle comprend toute la partie nord du département des Basses-Alpes, le sud de la Drôme et une petite enclave du Vaucluse. C'était, au moment où j'entrepris ma longue promenade dans ces déserts, des landes nues et monotones, vers 1200 à 1300 mètres d'altitude. Il n'y poussait que des landes sauvages. Je traversais le pays dans sa plus grande largeur et, après 3 jours de marche, je me trouvais dans une désolation sans exemple. Je campais à côté d'un squelette de village abandonné. Je n'avais plus d'eau depuis la veille et il me fallait en trouver. Ces maisons agglomérées, quoique en ruine, comme un vieux nid de guêpe, me firent penser qu'il avait dû y avoir là, dans le temps, une fontaine ou un puits. Il y avait bien une fontaine, mais sèche. Les 5 à 6 maisons, sans toiture, rongées de vent et de pluie, la petite chapelle au clocher écroulé, étaient rangées comme le sont les maisons et les chapelles dans les villages vivants. Mais toute vie avait disparu. C'était un beau jour de juin, avec grand soleil. Mais sur ces terres sans abri et hautes dans le ciel, le vent soufflait avec une brutalité insupportable. Ces grondements dans les carcasses des maisons étaient ceux d'un fauve dérangé dans son repas. Il me fallut lever le camp. À 5 heures de marche de là, je n'avais toujours pas trouvé d'eau, et rien ne pouvait me donner l'espoir d'en trouver. C'était partout la même sécheresse, les mêmes herbes ligneuses. Il me sembla apercevoir dans le lointain une petite silhouette noire, debout. Je la pris pour le tronc d'un arbre solitaire. À tout hasard, je me dirigeai vers elle. C'était un berger. Une trentaine de moutons couchés sur la terre brûlante se reposaient près de lui. Il me fit boire à sa gourde et, un peu plus tard, il me conduisit à sa bergerie. Dans une ondulation du plateau, il tirait son eau. Excellente, d'un trou naturel, très profond, au-dessus duquel il avait installé un treuil rudimentaire. Cet homme parlait peu, c'était le fait des solitaires, mais on le sentait sûr de lui et confiant dans cette assurance. C'était insolite dans ce pays dépouillé de tout. Il n'habitait pas une cabane, mais une vraie maison en pierre, où l'on voyait très bien comment son travail personnel avait rapiécé la ruine qu'il avait trouvée là à son arrivée. Son toit était solide et étanche. Le vent qui le frappait faisait sur les tuiles le bruit de la mer sur les plages. Son ménage était en ordre, sa vaisselle lavée, son parquet balayé, son fusil graissé. Sa soupe bouillait sur le feu. Je remarquai alors qu'il était aussi rasé de frais, que tous ses boutons étaient solidement cousus, que ses vêtements étaient reprisés avec le soin minutieux qui rend les reprises invisibles. Il me fit partager sa soupe et, comme après je lui offrais ma blague à tabac, il me dit qu'il ne fumait pas. Son chien, silencieux, comme lui, était bienveillant et sans bassesse. Alors, comme je vous l'ai dit, L'homme qui plantait des arbres est une œuvre très courte, mais aussi très riche. Alors, très riche pourquoi? Eh bien, c'est une œuvre qui est un hommage. Un hommage à quoi? Un hommage à plusieurs choses. D'abord, évidemment, c'est un hommage à la nature. Puisque c'est l'existence de la forêt qui fait revenir les gens au village. Vous l'avez vu dans l'extrait que je viens de vous lire, le village au début est en ruine et à la fin, eh bien, c'est un village qui est peuplé, où on entend des rires d'enfants, où la fontaine se remet à couler. Et pourquoi est-ce que les gens sont revenus? Eh bien, parce que c'est un endroit paisible grâce à la forêt qu'a planté Elzéar Bouffier. Et l'administration, les hommes politiques, l'État n'ont absolument rien compris à cela. C'est aussi un hommage à la persévérance et à l'espoir. Elzéar Bouffier, est seul et, à lui tout seul, il a planté tous ses arbres un à un, avec sa petite tringle de fer, les glands qu'il a ramassés et triés, et grâce à sa persévérance pendant des années, planté ses arbres les uns après les autres, eh bien il est parvenu à créer une immense forêt. Et enfin, eh bien cette œuvre, c'est aussi un hommage à l'engagement individuel. Il n'y a pas besoin de soulever des montagnes pour changer le monde. C'est ce que nous explique Jean Giono. On n'a pas besoin de faire des choses extraordinaires, mais chacun, à sa manière, peut contribuer à rendre le monde meilleur. Voilà, donc c'est un très beau texte que, encore une fois, je me répète, mais je vous encourage à lire. Alors, pour terminer, je voulais partager quelque chose avec vous. En préparant ce podcast, j'ai découvert un texte que je ne connaissais pas. Il s'agit d'une lettre de Jean Giono qu'il a écrite au conservateur des eaux et forêts de Digne. Alors, ce conservateur des eaux et forêts s'appelle Monsieur Valderon. Il a lu L'homme qui plantait des arbres et il a écrit à Giono en 1957. Et donc, voilà, je vais vous lire la réponse que lui a faite Jean Giono. Cher monsieur, navré de vous décevoir, mais Elzéar Bouffier est un personnage inventé. Le but était de faire aimer l'arbre, ou plus exactement, faire aimer à planter des arbres, ce qui est depuis toujours une de mes idées les plus chères. Or, si j'en juge par le résultat, le but a été atteint par ce personnage imaginaire. Le texte que vous avez lu dans Trees and Life a été traduit en danois, finlandais, suédois, norvégien, anglais, allemand, russe, tchécoslovaque, hongrois, espagnol, italien, yiddish, polonais. J'ai donné mes droits gratuitement pour toutes les reproductions. Un Américain est venu me voir dernièrement pour me demander l'autorisation de faire tirer ce texte à 100 000 exemplaires pour les répandre gratuitement en Amérique, ce que j'ai bien entendu accepté. L'université de Zagreb en a fait une traduction en yougoslave. C'est un de mes textes dont je suis le plus fier. Il ne me rapporte pas un centime et c'est pourquoi il accomplit ce pourquoi il a été écrit. J'aimerais vous rencontrer, s'il vous est possible, pour parler précisément de l'utilisation pratique de ce texte. Je crois qu'il est temps qu'on fasse une politique de l'arbre, bien que le mot politique semble mal adapté. Très cordialement, Jean Giono. Et voilà, c'est terminé pour ce podcast. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. Et surtout, n'hésitez pas à partager le lien vers cette page de podcast, les liens vers ce blog pour que progresserenorthographe.com devienne le plus connu possible. Voilà, je vous remercie et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée. À très bientôt.